Le journal est présenté par Anne Fauquembert.
Bonsoir. Bernard Cazeneuve porte plainte pour diffamation après les accusations d'une policière municipale niçoise ce matin dans le journal du dimanche. Elle évoque des pressions lors de la rédaction de son rapport sur l'attentat du 14 juillet. Allégation scandaleuse pour le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Nous l'entendrons, suivi d'un décryptage de Sarah Maki. En Turquie, le temps de la riposte pour les partisans de la démocratie. 8 jours après le putsch manqué et la vague de purge, grand rassemblement organisé en cette fin d'après-midi à Istanbul. Nous serons sur place avec notre correspondant. Nous retournerons également en Allemagne où la police a donné de nouvelles précisions sur le profil du jeune homme de 18 ans à l'origine de la fusillade de Munich. Il se préparait depuis un an. Enfin, dans le scandale de dopage qui touche la Russie, c'était prévisible. Le CIO n'exclut pas le pays des JO de Rio. Ce sera aux fédérations internationales de repêcher au cas par cas les sportifs jugés propres. Bernard Cazeneuve va donc porter plainte pour diffamation contre la chef du centre de vidéosurveillance de Nice qui s'est exprimée dans le journal du dimanche ce matin. Elle affirme avoir subi des pressions du ministère de l'Intérieur. Pression lors de la rédaction de son rapport sur la soirée meurtrière du 14 juillet. Au cœur de la polémique toujours, la présence ou non de la police nationale au point d'accès de la partie piétonne de la promenade des Anglais. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet, dénonce des allégations scandaleuses.
Le ministère dément les propos de cette policière et le procureur de la République de Paris, François Molins, lui-même ce matin a indiqué que les seuls enquêteurs qui se sont rendus au centre de supervision urbain sont des enquêteurs qui avaient été diligentés dans le cadre de l'enquête, enquête qui est placée sous son autorité. Donc à aucun moment il n'y a eu de membres du cabinet du ministre de l'Intérieur, de Bernard Cazeneuve, qui auraient mandaté un commissaire pour qu'il se rende. Ce sont des allégations mensongères. Maintenant, il faut que cette dame, cette personne, la chef du CSU, elle maintient ses allégations, en fasse la preuve, témoigne, parle aux enquêteurs. Mais en tout état de cause, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a décidé de porter plainte pour diffamation parce que ce sont des allégations mensongères, scandaleuse, grave, ça fait 10 jours que ça dure, ça fait 10 jours qu'il y a des polémiques stériles lancées par certains élus niçois et ça suffit.
Pierre-Henri Brandet, chez nos confrères de France Info, la policière municipale va de nouveau s'expliquer dans 1 heure à 19h à Nice où elle organise une conférence de presse. Bonsoir Sarah Maki.
Bonsoir.
La ligne de défense du gouvernement se précise depuis la sortie ce matin de cette nouvelle interview polémique.
Oui, une polémique qui n'en finit plus, lancée juste après l'attaque par Christian Estrosi, ancien maire de Nice, qui accusait alors le gouvernement de mensonge d'État. Ce dimanche, après le témoignage de Sandra Bertin, c'est un autre élu LR qui réagit. Le président du conseil départemental, Éric Ciotti, estime que les nouvelles déclarations confirment l'impression que le ministère de l'Intérieur ne joue pas la transparence. Le gouvernement, on l'a entendu, pointe du doigt cette attitude des élus de droite. Et à son tour, il lance des accusations de mensonge à l'encontre de Sandra Bertin et de son affirmation qu'elle porte d'avoir été harcelée au téléphone par une personne du ministère de l'Intérieur le 15 juillet. Une personne qui lui aurait demandé de fournir un rapport modifiable des événements de la soirée du 14, essayant, selon elle, de lui faire ajouter une présence de policiers nationaux qu'elle ne voyait pas sur les images des caméras de vidéosurveillance. Cet après-midi, comme l'avait fait il y a quelques jours le préfet des Alpes-Maritimes, c'est le procureur de Paris, François Molins, qui se pose en fusible devant Bernard Cazeneuve. Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, lui prend le relais, affirmant que l'enquête relève exclusivement de l'autorité judiciaire. En clair, si un fonctionnaire a connaissance d'un délit, il est tenu de saisir la justice et non pas d'étaler ses accusations dans la presse. Avertissement clair en direction de Sandra Bertin, qui, comme vous l'avez rappelé Anne, doit s'exprimer de nouveau dans moins d'une heure à Nice.
Merci Sarah Maki pour vos explications. Le tueur de Munich avait préparé sa fusillade depuis un an, selon les enquêteurs allemands. Le jeune homme de 18 ans a tué 9 personnes et en a blessé 27 avant-hier dans un centre commercial de la capitale de la Bavière. Dans son appartement, les policiers ont retrouvé bon nombre de documentations sur les meurtres de masse, notamment sur celui de Winnenden, près de Stuttgart. En mars 2009, un jeune homme de 17 ans avait tué 15 personnes dans son ancien collège avant de se suicider. La correspondance à Berlin de David Philippot.
Selon les informations du journal Süddeutsche, le tueur avait fait un pèlerinage macabre à Winnenden. Le lycée de cette ville avait été le théâtre d'une tuerie de masse en 2009. 16 professeurs et lycéens assassinés par un ancien élève. Sur place, celui qui s'appelait David Ali avait pris des photos qui avaient rejoint sa documentation très riche sur le sujet. Les enquêteurs ont établi qu'il avait minutieusement préparé son action meurtrière depuis un an, comme en atteste un document retrouvé sur son ordinateur, devant lequel il passait beaucoup de temps sur des jeux de guerre style Counter-Strike, et c'est sur Internet, sur le Darknet plus précisément, qu'il a acheté son pistolet. En revanche, la police pense qu'il a tiré sur ses victimes au hasard, et que c'est un hasard que 7 des 9 victimes soient d'origine étrangère. Le tueur du centre commercial était en échec scolaire, il avait connu des problèmes de harcèlement à l'école qui datent de 2012. En 2015, il a séjourné 2 fois dans un hôpital psychiatrique à cause de phobie sociale, mais la police ne sait pas encore quel est le motif précis qui l'a poussé à passer à l'acte à ce moment précis, à cet endroit précis.
En Turquie, c'est une grande manifestation pour la démocratie qui est convoquée d'ici 1 heure à Istanbul. Alors que les supporters du président Erdogan défilent dans les rues depuis 1 semaine, le parti républicain du peuple, parti d'opposition kémaliste, rassemble ses partisans. Manifestation organisée sur l'emblématique place Taksim d'Istanbul. Elle se prépare dans la confusion puisque les partisans du président Erdogan pourraient bien se retrouver à la même heure et au même endroit. Manifestation qui provoque donc des divisions au sein de l'opposition. Alexandre Billette.
C'est la première fois depuis la révolte de Gezi au printemps 2013 qu'une manifestation va rassembler entre autres des adversaires du président Erdogan sur cette place Taksim. Mais depuis 1 semaine, le pays est sous une telle tension que même un détail pourrait mener à des débordements, comme un slogan ou un drapeau. Les dirigeants du CHP ont demandé de ne pas afficher autre chose que des drapeaux turcs ou le portrait d'Atatürk. Une manifestation donc qui sera certainement tendue, probablement importante aussi. Les transports en commun sont toujours gratuits pour permettre aux manifestants de s'y rendre. La municipalité qui a déployé déjà des barricades tout autour de la place ce matin en prévision du rassemblement de ce soir. L'opposition est dans une position inconfortable. Certains dirigeants du CHP ont du mal à justifier cette manifestation en partenariat en quelque sorte avec la KP. Et même si depuis le putsch raté, il est très difficile de faire entendre une voix discordante au risque de passer pour un pro-putschiste, eh bien certaines voix se sont élevées pour dénoncer une sorte de fête de l'unité nationale qui ne va profiter qu'à Recep Tayyip Erdogan. Une manifestation risquée pour l'opposition kémaliste donc et qui isole par ailleurs encore un peu plus la gauche pro-kurde. Le HDP qui a tenu un rassemblement hier et dont la voix est de plus en plus inaudible ici en Turquie.
Toujours concernant la Turquie, Amnesty International affirme avoir des preuves crédibles de détenus torturés depuis le putsch raté d'il y a 8 jours et la purge qui s'ensuit. Selon l'ONG, les polices d'Ankara et d'Istanbul maintiennent des détenus dans des positions douloureuses pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 48 heures. L'organisation parle également de privation de nourriture et d'eau, d'injures, de menaces et dans certains cas de coups et de viols. La ville d'Alep, dont les quartiers rebelles à l'est sont toujours assiégés à de nombreux endroits, a été de nouveau bombardée par l'aviation du régime de Bachar el-Assad. 4 hôpitaux de campagne et une banque de sang ont été touchés. Des centres de santé qui sont ce soir très endommagés. Un nourrisson a par ailleurs été tué à la suite de ces frappes, selon des sources médicales. Le Comité international olympique ne suspend pas les athlètes russes des Jeux olympiques de Rio. Le CIO a choisi de laisser les fédérations sportives internationales décider elles-mêmes de la participation ou non des sportifs russes aux JO. Les précisions de Fabrice Abgral.
Le CIO a décidé de ne rien décider, préférant laisser aux fédérations internationales de prendre seules la responsabilité de suspendre les athlètes convaincus de dopage ou sur lesquels reposent suffisamment de soupçons ou de preuves pour les priver des Jeux de Rio, comme l'a fait la Fédération internationale d'athlétisme. Le CIO brille là par son manque de courage en décidant de se décharger sur les fédérations internationales des 30 sports mis en cause par le rapport McLaren. Mercredi, le comité olympique russe avait dévoilé une liste de 387 sportifs sélectionnés pour les Jeux. Ils devront remplir les 5 conditions imposées par le CIO aux fédérations de repêcher au cas par cas les sportifs russes jugés propres. Les athlètes qui ont été contrôlés positifs et suspendus pour dopage par le passé seront automatiquement exclus des Jeux. Et c'est le cas de Lulia Stepanova. C'est elle qui est à l'origine des révélations sur le dopage d'État en Russie. Seulement voilà, elle a été suspendue 2 ans en 2013 pour dopage. La spécialiste du 800 mètres exilée aux États-Unis sera donc privée des Jeux. Le CIO lui fait presque payer sa franchise et son honnêteté.
Et la Russie se dit ce soir reconnaissante de la décision du CIO, je cite, objective. Pas de conséquences de l'attentat de Nice sur la fréquentation du festival d'Avignon. Quasiment 5000 billets de plus ont été vendus par rapport à l'an passé. Et la fête du théâtre a attiré 120 000 visiteurs et les nombreuses manifestations gratuites comme les fictions de France Culture ou les débats et expositions ont été fréquentées par 47 000 personnes. Le temps de votre lundi sera nuageux sur une grande moitié nord de la Loire à la frontière belge. Le soleil dominera sur le reste du pays. Les températures demain matin, 16 à Lille, 17 à Toulouse, 18 à Strasbourg, 19 à Paris et 21 à Marseille.